Vous êtes bien sur Choc FM à Kitry-Hervouët. Je suis en studio avec Nadine Valsin, qui est cinéaste. Alors, qu'est-ce que pour vous, c'est qu'être cinéaste, Nadine?
Ben, cinéaste, j'utilise cinéaste parce que c'est un terme plutôt englobant. Je fais de la réalisation, de la scénarisation, en plus de faire de la production, que ce soit en documentaire ou en fiction. Donc, ça recoupe plusieurs chapeaux.
Vous êtes membre du labo et vous avez été désigné par le labo pour être le membre du mois. Vous allez présenter le documentaire expérimental Whitewash et le court-métrage de fiction Fire and Fury. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus?
J'ai choisi ces deux courts-métrages-là en partie parce que février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et ces deux films que j'ai réalisés vraiment à peu près à 10 ans de différence. Et mais Fire and Fury, c'est l'histoire, en fait, d'une esclave noire qui s'appelait Marie-Joseph Angélique, c'est basé sur des faits réels, qui a été accusée en 1732 d'avoir mis le feu qui a fait brûler la moitié de la ville de Montréal. Donc, en fait, le court-métrage, c'est un peu une imagination, une fictionnalisation des jours qui mènent au feu. Donc, ça a jamais été, elle a toujours maintenu, en fait, qu'elle était innocente. Mais un juge l'a trouvée coupable et elle a été pendue sur la place publique, puis elle a été brûlée à Montréal, en juin 1732.
Et comment avez-vous eu vent de cette histoire? Vous aviez fait des recherches auparavant?
Ben, en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai grandi à Montréal. J'avais jamais entendu parler de cette histoire-là jusqu'à temps que, en fait, j'entende une mention de ça au passage dans un autre documentaire. Et après ça, ça m'a intriguée parce que, un, je savais pas que, en fait, l'esclavage était légal au Canada pendant une période de 200 ans. Et que cet événement-là se soit passé dans la ville et que ce soit un des... Il y a eu beaucoup de feux à Montréal, justement, à cette époque-là, parce que les constructions étaient en bois, mais c'est quand même un des plus gros feux qu'il y a eu à Montréal et que cette mention-là, en fait, que la plupart des gens ne savent pas.
Et donc, ça, c'est Fire and Fury. Et est-ce que vous pourriez me parler un peu de Whitewash? Moi, j'ai vu que c'était sur les esclaves qui sont sur l'île du prince Édouard.
Ben, c'est Whitewash, c'est un peu la continuation de cette recherche-là que j'ai fait sur l'esclavage au Canada. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'être artiste en résidence à l'école de droit Osgoode à l'Université York. Et pendant l'année scolaire, la résidence, en fait, me permettait de faire de la recherche et me donnait un certain cachet pour faire, en fait, une œuvre d'art, un film ou ce que je voulais. Et ce qui m'avait, en fait, en faisant des recherches sur Angélique, ce que je m'étais chose vraiment encore plus surprenante, c'est où on a trouvé des descendants, comme 9 générations de descendants d'esclaves, est en fait à l'île du Prince-Édouard, qui était vraiment pas la place où je me serais imaginé qu'il y avait une grosse population noire. Mais ce qui est intéressant de l'île du Prince-Édouard, ce qui est difficile, en fait, pour retracer des descendants d'esclaves, c'est que la plupart des esclaves n'avaient pas de nom de famille. Donc, il n'y a pas vraiment... S'ils ont eu des enfants, il n'y a pas vraiment moyen de les retracer. S'ils ont pris un nom de famille après avoir été libérés, tout ça, on ne sait pas. Tandis que les esclaves qui sont venus à l'île du Prince-Édouard, en fait, ont été amenés par des loyalistes. La plupart en 1783, en fait. Et venant des États-Unis, la plupart de ces esclaves-là avaient un nom de famille. Pourquoi, je sais pas. Donc, on peut facilement les retracer à travers les générations. Et le fait que, en fait, l'île du Prince-Édouard soit très insulaire par sa nature et n'a été connectée que récemment par le pont de la Confédération. Ça fait que à l'île du Prince-Édouard, je pense que la population totale est 130 000 habitants. Et beaucoup, il y a pas beaucoup de mobilité. Donc beaucoup de gens à l'île du Prince-Édouard sont là depuis des générations et habitent à, je sais pas moi, 500 mètres de où ils ont grandi.
Et est-ce que il y a d'autres sujets qui vous intéressent? Là, vous avez fait deux sujets sur l'histoire des Noirs et sur l'esclavage. Il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur?
Mais en ce moment, je suis en train de développer deux longs métrages de fiction. Donc, il y en a un qui s'intéresse à l'histoire d'un enfant soldat qui arrive seul au Canada et qui cherche à obtenir le statut de réfugié. Donc, c'est son processus d'adaptation et c'est un peu une exploration de ce que c'est d'essayer de vivre une vie soi-disant normale après avoir été confronté à des atrocités énormes. Donc ça, c'est un. Celui-là est en français. Et j'en développe un autre, en fait, qui est sur une fille, une jeune fille dont la mère est décédée qui refuse de parler, en fait, et qui se fait adopter dans une famille.
Et d'où vous vient cette passion pour l'écriture? Est-ce que ça fait longtemps que vous écrivez?
Non, en fait, je suis tombée dans... Ben, longtemps, c'est relatif. Je suis un peu tombée dans l'écriture parce que il y a peut-être une dizaine d'années, Téléfilm avait un programme pour encourager les auteurs francophones à l'extérieur du Québec qui s'appelait Écrire au long. Donc, à travers Écrire au long, on soumettait un synopsis d'à peu près 5 pages et ils choisissaient 5 projets hors Québec qu'ils amenaient en développement. Donc, il y avait des ateliers de scénarisation et après, on avait un conseiller à la scénarisation avec lequel on travaillait pendant 3 mois, je pense, pour livrer un synopsis plus long. Puis après ça, ils choisissaient un projet pour amener en développement. Donc, c'est mon projet qui a été choisi. Et au départ, je me rappelle avoir eu une conversation avec la dame de Téléfilm qui m'encourageait fortement à déposer. Puis je lui ai dit en fait que j'étais pas scénariste et que elle m'a vraiment encouragée à soumettre. Donc je lui suis fortement reconnaissante parce que j'ai découvert que l'écriture et j'ai découvert qu'en fait c'est quelque chose qui me plaît énormément.
Et qu'est-ce que vous faisiez avant, en fait, l'écriture? Parce que vous écrivez, vous réalisez, vous produisez. Mais avant de découvrir l'écriture, que faisiez-vous dans le monde du cinéma?
J'ai travaillé beaucoup en documentaire comme réalisatrice. J'ai fait de la production télé, de la réalisation de reportages, beaucoup. Fire and Fury est mon premier court-métrage de fiction, donc il a été réalisé, en fait, avant que je commence vraiment à écrire du long métrage, donc toutes sortes de choses en fait.
Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez l'écriture, la réalisation, la production?
Mais moi, je pense que j'aime à la fois la scénarisation et la réalisation parce que c'est un peu deux côtés de la même médaille en fait. Et deux travails qui impliquent une énergie différente, un travail différent et qui sont vraiment presque pas, je dirais pas à l'opposé, mais en termes de travail qui sont très, très différents. Donc, ce que j'aime de l'écriture, en fait, c'est que quand on est devant une page blanche, tout est possible. Donc, c'est un travail qui est très minutieux, qui est très introspectif, mais qui est aussi très, très ouvert. Quand on arrive à la réalisation, en fait, c'est la mise en œuvre du scénario. Donc, c'est vraiment de concrétiser la vision, ce qui est intéressant, mais ce qui est aussi avec une grande équipe, avec des comédiens, avec des techniciens, avec donc c'est vraiment un travail d'équipe et un travail qui prend beaucoup d'énergie puis très qui est vraiment presque à l'opposé de l'écriture en fait.
Qu'est-ce que vous préférez écrire et réaliser en anglais, en français? Parce que vous m'avez dit que vous avez grandi à Montréal. Alors moi, j'aurais une question. Quelle est votre langue maternelle? Est-ce le français, l'anglais?
Ma langue maternelle est le français, mais j'ai appris l'anglais en fait très jeune. J'habitais aux États-Unis pendant 2 ans, entre l'âge de 3 et 5 ans. Donc j'ai appris l'anglais très jeune. Donc c'est comme, oui, c'est ma seconde langue, mais c'est une langue que je maîtrise quand même beaucoup. Je dirais que faire des films en français à l'extérieur du Québec, c'est difficile. C'est difficile à financer. C'est difficile parce qu'on n'a pas nécessairement, on a d'excellents comédiens, mais on n'a pas un bassin très, très large de comédiens. Et surtout quand on cherche des comédiens, même à Montréal, quand on cherche des comédiens de la diversité culturelle, c'est un peu comme une espèce d'engrenage où il y a pas beaucoup de comédiens de la diversité qui ont beaucoup d'expérience parce qu'on n'écrit pas des rôles pour eux. Puis en même temps, on n'écrit pas des rôles pour eux parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Donc, c'est un peu... une des grandes difficultés, je trouve.
Et quels sont vos projets en cours et vos projets futurs? Plus réalisation, plus tournée vers la production, l'écriture?
Ben là, je termine l'écriture avec l'espoir que de faire un de mes longs métrages dans les prochaines années. Donc,
ça sera votre premier long métrage?
Oui.
Est-ce que vous pourriez me dire un peu le thème sans trop le développer?
Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est celui de. Ben, en fait, ce qui est ironique, c'est que le long métrage que je travaille sur l'enfant soldat, ça fait peut-être 7 ans que j'y travaille, qu'on essaie de le faire financer de différentes manières et c'est un peu compliqué. Puis en réaction à ça, en fait, parce que c'est un long métrage qui serait assez coûteux, j'ai eu une bourse du Conseil des arts du Canada pour écrire, scénariser un long métrage, mais c'est ça, c'est justement sur le thème du deuil de la jeune fille de 8 ans qui perd sa mère et qui se fait adopter par un couple et qui refuse de parler. Et c'est un peu c'est de rentrer dans son imaginaire. Et je l'ai écrit pour que ce soit un film, en fait, beaucoup plus intime. Donc, celui-là risque de se réaliser avant que l'autre se fasse, en fait.
Et comment trouvez-vous vos sujets? Parce que là, vous avez quand même des sujets sur un enfant qui était un ancien enfant soldat. Vous avez le thème du deuil. Comment vous les trouvez? Vous lisez beaucoup les journaux? Vous regardez peut-être des documentaires? Quelle est votre méthode?
C'est une bonne question. J'ai aucune idée. Non, pas pour dire que j'ai aucune idée, mais c'est des idées qui nous viennent, qui sont très fertiles. L'histoire de l'enfant soldat, en fait, j'avais fait un documentaire qui s'appelait Une école sans frontières à l'école Étienne Brûlé, il y a de ça assez longtemps. Et à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient du Congo parce que c'était la guerre là-bas et tout. En entrevue, il y en avait plusieurs qui m'ont parlé d'histoires d'enfants sans rentrer dans les détails. Donc, je pense que ça m'était un peu resté dans la tête comme quelque chose à explorer.
Et quand vous trouvez une idée, elle vous vient comment? Parce qu'il y a des gens, ils vont avoir un flash avec une image, et il y en a d'autres, ils vont avoir peut-être un mot, une phrase. Comment ça vous vient, cette idée?
Ben, je pense que c'est un peu... Des fois, c'est un flash, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on perçoit. C'est un peu difficile à décrire.
Oui, à décrire. Il y a beaucoup que j'ai déjà posé cette question à des auteurs également, et il y en a, ils vont vraiment pouvoir me répondre, et il y en a d'autres, ils savent pas trop. C'est juste leur imaginaire, effectivement, ils me décrivent ça généralement comme un flash qu'ils ont. Merci beaucoup, Nadine Valsin. Vous êtes membre du mois au Labo. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Labo, c'est le laboratoire d'art médiatique francophone pour tous les artistes francophones de Toronto. Et vous serez donc le 1er février au Cock of the Walk.
Oui, ça s'appelle le Point Bar, je pense.
Alors, le Point Bar, c'était l'ancien nom. Okay. Et ils ont changé. Il s'appelle Cock of the Walk.
Merci.
Merci.
Plus au courant que moi.
Merci, vous étiez sur Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouet.